C'est la huitième fois que Renault remporte ce prix. Après Scenic E-Tech Electric en 2024, Renault est la première marque française à réaliser ce doublé. Ça fait beaucoup de chiffres, mais s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est que R5 est numéro 1. Est-ce que ça compte ? Oui, quand on doit choisir sa voiture électrique, c'est le genre de chiffres qui compte.
Pensez à covoiturer.
Il est minuit sur Europe 1. Et c'est un dernier tour de l'info avec vous, Maël Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La politique migratoire des États-Unis se durcit d'heure en heure. 1500 soldats vont être envoyés à la frontière avec le Mexique suite au déclenchement de l'état d'urgence dans cette zone par Donald Trump. Par ailleurs, le président américain interdit jusqu'à nouvel ordre l'entrée des demandeurs d'asile dans son pays, même ceux dont le dossier est accepté par les autorités. Cette mesure concerne des milliers de personnes à travers le monde. Marco Rubio, le chef de la diplomatie nommé par Donald Trump, promet un soutien inébranlable de son pays à Israël au cours d'un premier entretien téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ce mercredi soir, l'armée israélienne annonce avoir tué un combattant du djihad islamique à Gaza, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche dernier. L'homme abattu constituait une menace pour les soldats israéliens, est-il précisé dans le communiqué. Le chancelier allemand Olaf Scholz dénonce, je cite, une tolérance mal comprise envers des agresseurs qui sont venus chez nous pour y trouver une protection. Après l'attaque au couteau d'Aschaffenbourg ce mercredi, durant laquelle deux personnes sont mortes, dont un enfant de 2 ans, l'assaillant est un Afghan de 28 ans, arrivé comme demandeur d'asile en 2022, mais sous le coup d'une procédure d'expulsion depuis le mois dernier. Après une série de levées de boucliers, le ministre de l'économie écarte toute idée de taxe sur les retraités les plus aisés, piste avancée mardi par la ministre du Travail pour renflouer les caisses de la Sécu. Plus globalement, il n'y aura pas de nouvel impôt sur les ménages, promet Éric Lombard dans les colonnes des Échos. L'idée de travailler 7 heures gratuitement reste en revanche sur la table. Autre piste pour faire des économies, supprimer la prise en charge par l'État du train de vie des anciens premiers ministres. Un amendement pour supprimer l'enveloppe dédiée vient d'être adopté par le Sénat. Il sera ensuite examiné à l'Assemblée. Cette mesure pourrait permettre d'économiser près de 3 millions d'euros par an. L'influenceur algérien interpellé ces dernières heures à Paris sera convoqué ce jeudi par les services de police. Rafik Méziane, c'est son nom, fait l'objet d'un signalement à la justice en raison d'appels à commettre des violences sur le sol français, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est le 7e influenceur algérien interpellé dans l'Hexagone depuis le début de l'année. Le groupe État islamique au Khorasan, implanté en Afghanistan et au Pakistan, est en tête des priorités de la DGSI. C'est ce qu'indique la patronne des renseignements dans un entretien au Point. Céline Berton assure que les effets du conflit israélo-palestinien sur le sol français sont également suivis de très près. En football, le Paris Saint-Germain, toujours en lice en Ligue des Champions, victoire 4-2 du PSG contre Manchester City ce mercredi soir. Le club de la capitale peut espérer une qualification pour les barrages. Le stade brestois, déjà certain de disputer les barrages, s'est incliné 2-0 un peu plus tôt face au Shakhtar Donetsk. Et puis il y a un an jour pour jour, le fondateur et producteur du groupe Boney M nous quittait, l'allemand Frank Farian, qui au-delà d'être le chef d'orchestre du groupe disco, possédait également sa voix sur les titres, même s'il n'apparaissait pas sur scène. Par exemple, la voix grave sur Daddy Cool, c'est bel et bien celle de Frank Farian. Voilà, Frank Farian, qui est donc le vrai chanteur de Boney M.
D'accord, et qui est décédé à quel âge ?
Il y a un an, à 82 ans.
À 82 ans. Lui aussi, avec ce titre-là, il devait avoir une maison dans chaque belle ville du monde.
Et sans être reconnu, parce qu'il apparaissait pas sur
pas
les pochettes, il apparaissait pas sur scène non plus.
Non.
C'était un chanteur qui n'était pas le chanteur.
Je pensais que le chanteur était ce chanteur fantastique black.
Mais vous pensez comme beaucoup de monde, mais c'est pas vrai.
Et qui est toujours le même, hein, aujourd'hui.
Oui,
Boney M tourne ça leur arrive de faire des prestations, et il est toujours là.
Absolument.
Et il doit avoir plus de 70 ans.
Voilà, et donc c'est un peu une... Alors, non, pas une escroquerie, le mot est fort.
Non.
C'est une supercherie, une...
Bah, vous voyez, Plastic Bertrand, visiblement, qui n'est pas la voix
voilà.
du titre.
Mais ça fait l'objet d'un litige devant la justice. Ouais, c'est plus compliqué.
Ah, on va pas commettre de bévues ce soir là-dessus.
Mais la Boney M, c'est assumé, c'est officiel.
D'accord. Et aux États-Unis, ça cartonnait, Boney M.
Eh bien, mais dans le monde entier, Olivier.
Bon, bah écoutez, ça nous fait la fin des Macumba ce soir et, et l'anniversaire de la mort du créateur de Boney M. Bon, bah écoutez, on va essayer de surmonter le moral. Merci pour ces nouvelles, mon cher Maël. Et puis, on vous retrouve demain soir, jeudi, à la même place et à la même heure.
Absolument.
À demain.
À demain.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
C'est de 8 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter, chers amis, et puis j'en profite pour saluer tous nos collègues des chaînes info, des radios qui sortent et qui souvent nous envoient des petits messages. Et oui, ils écoutent eux aussi la libre antenne d'Europe 1. Ce ne sont pas obligatoirement mes collègues de CNews. Il y en a d'autres chaînes qui envoient leurs petits messages et je les salue. Ils font, comme nous, des métiers un petit peu de nuit, vous voyez. Et donc, il y a une solidarité entre tous ces collègues. Dominique, on va parler de la bipolarité, car quand vous m'avez appelé il y a 3 ans, on n'avait pas trouvé le bon dosage, ce qui fait que déjà à l'époque, c'était plutôt dur. Cette bipolarité, vous avez pris dès votre adolescence à peu près ?
Bah, je dirais que je suis bipolaire depuis l'âge de 20 ans, que la maladie s'est déclarée quand j'avais 48 ans.
D'accord. Mais alors, elle s'est déclarée beaucoup plus parce que, si vous dites que depuis 20 ans, vous étiez depuis l'âge de 20 ans, il y avait quelques signes précurseurs dès l'âge de 20 ans ?
Non, enfin, une fois j'étais sortie du bureau où je travaillais, j'avais frôlé les murs, j'avais regardé personne, j'avais regardé mes pieds.
Oui.
J'étais rentrée à l'agence et j'avais dit, je veux pas prendre de médicaments comme papa et j'irai pas voir le médecin.
D'accord.
Parce que mon papa était bipolaire.
D'accord, votre papa était bipolaire aussi.
Mmh.
Alors, c'est la semaine de la santé mentale.
Oui, tout à fait.
Et hier, vous me disiez que une personne avant-hier parlait de paroxétine,
oui.
Qui est un régulateur d'humeur.
Oui, tout à fait. Un thymorégulateur d'humeur qui m'a été prescrit au cours de mes différents traitements, puisque ça a changé vraiment beaucoup.
D'accord. Alors, comment vous en êtes-vous sorti depuis 3 ans, en fait, parce que vous dites sortir depuis peu, d'une dépression qui a duré 2 ans et demi, ça a été un long chemin de croix pour vous, Dominique.
Tout à fait. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez, qu'il fallait aller voir un psychiatre et non le médecin traitant pour se faire prescrire des antidépresseurs, et c'est tout à fait vrai. Je me suis battue avec ma sœur, qui est aussi bipolaire, longtemps pour qu'elle aille voir un psychiatre et non pas son médecin traitant, et à ce jour, elle va voir un psychiatre.
Mais oui, mais vous savez, quand je dis cela, et que je me prends après des réflexions désobligeantes, je ne suis pas là pour faire monsieur je sais tout et frimer. C'est simplement que voilà, que j'ai par expérience traité du sujet à travers mes films, et que autour de moi j'ai eu des personnes qui avaient de la bipolarité, qui souffraient de bipolarité, mais aussi de crises d'angoisse. Il y a des médicaments qui correspondent à cela. Et je pense que c'est la semaine de la santé mentale. Il faut, quand on souffre de quelque chose comme de crise d'angoisse, comme de dépression, il vaut mieux aller voir un spécialiste de la santé mentale.
Tout à fait, oui.
Un médecin généraliste va pouvoir faire peut-être pendant quelques jours un diagnostic, mais surtout peut-être un petit traitement préventif afin de calmer la personne qui vient le voir. Mais je pense que c'est un psychiatre qui doit prendre en main toutes sortes de déconvenues liées à une instabilité mentale ou une maladie mentale.
C'est lui qui doit prescrire le médicament.
Oui,
en
fait, oui, bien évidemment. Parce que vous en êtes... Alors bon, bien évidemment, on parlait avec Evan l'autre soir de crises d'angoisse, mais qui peuvent être aussi liées à une forme de bipolarité. Bon, mais la bipolarité, ce qui est clair, c'est que ça n'est pas un médecin généraliste qui doit le traiter.
Non. Moi, j'ai été tout de suite prise en charge par un psychiatre, dès le début de ma maladie.
Et comment ça s'est passé au début ?
Au début, j'étais en dépression.
Mais vous aviez ces moments up et ces moments down ?
Down, oui.
Oui,
oui, oui.
Comment se traduisaient les moments up ?
J'étais en fait, j'ai eu le temps là, pendant mes 2 ans et demi de me retourner sur le passé et j'étais dans un état euphorique et je faisais un peu n'importe quoi.
Vous faisiez beaucoup de ménage, non, dans les périodes up ?
Oh, éventuellement, oui. Enfin, c'est pas toujours ma tasse de thé, le ménage.
D'accord. Non, mais je sais pas, dans mon souvenir, je pensais que vous m'aviez raconté ça il y a 3 ans.
C'est possible. Je sortais, je dépensais de l'argent, oui. Pas outre mesure, hein, mais je n'ai pas acheté une Rolls ou quelque chose comme ça, mais je dépensais plus que d'habitude.
Quand vous êtes tombé malade à 48 ans, je suppose que vous ne compreniez pas trop ce qui vous arrivait.
Oui.
Comment on en arrive c'est donc ce médecin psychiatre qui vous a parlé de bipolarité pour la première fois ?
J'ai été hospitalisée.
Oui.
Et c'est au cours à la fin de mon hospitalisation que le médecin a décrété que j'étais bipolaire puisque mon papa l'était. Il m'a autorisé à sortir de l'hôpital en me disant « Vous n'allez pas assez vous suicider.
» Vous êtes sorti, tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé, oui.
Comment vous vous sentez aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé dans justement le traitement que vous recevez aujourd'hui ?
Je vais très bien. Mon psychiatre récemment m'a diminué, on m'a enlevé un demi-cachet.
Oui.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'aille mieux ? J'étais en région parisienne, mon fils s'est fiancé en région parisienne, donc oui. J'ai dû bouger, en fait, sortir de chez moi.
Vous habitez la région parisienne, maintenant ?
Non, j'habite à Rumilly, toujours. C'est mon fils qui habite en région parisienne. Autorisé à sortir de l'Omni, c'est près d'Annecy.
Aujourd'hui, en fait, vous arrivez à mener une vie... normale.
Vie normale, oui. Tout à fait.
Alors comment elle se décompose ?
Je fais mon ménage, je fais mes courses, je fais tout, quoi.
D'accord. Mais vous avez un statut particulier aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez retravailler ou c'est compliqué ?
Non, je suis retraitée. J'étais en invalidité depuis 2012.
D'accord.
Je suis malade depuis 15 ans, en fait.
Oui, c'est ça. Et ça vous a quand même beaucoup impacté, hein, beaucoup empêché de...
D'accord. Oui, de toute façon, j'étais pas capable de travailler. Une fois, j'avais repris le travail et j'avais une idée à la seconde et je me levais tout le temps. Et le patron avait dit, c'est pas possible, il faut la remettre en arrêt.
D'accord. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Oui. Vous arrivez à être heureuse aujourd'hui quand même. C'est...
Oui, est-ce qu'on arrive... divorcée, mais je suis heureuse.
Oui, ça a eu quand même ça hein, comme impact hein, sur votre couple.
Oui.
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 C'est extrêmement difficile pour les proches.
Oui, c'est ma fille qui me connaît bipolaire depuis l'âge de 6 ans et elle est très inquiète et elle est à mes petits soins.
Oui.
Elle me dit des fois quand je bois du café, tu sais maman, il ne faut pas prendre d'excitant.
Mm-hmm. Elle a raison.
Et elle avait peur aussi que je ne mange pas. Donc mm-hmm. on a mis en place le portage des repas,
oui.
une aide ménagère pendant une heure et demie par semaine.
Mm-hmm.
J'ai un suivi, alors journalier, j'ai des infirmières qui m'apportent les médicaments le matin. J'ai deux infirmières au CMP qui me suivent, qui me voient là une fois par semaine.
Oui, quand même, il y a
encore. Je les avais appelées tout de suite parce que je commençais à mal dormir. Donc, je les ai appelées, je leur ai dit. Ils m'ont donné un médicament de plus.
Mm-hmm.
Et j'étais contente que je tirais moi-même et tout de suite la sirène, la sonnette d'alarme.
Oui, oui, parce que souvent, les problématiques aussi liées à la santé mentale, c'est qu'on a du mal à appeler au secours, hein. On a du mal à, à demander de l'aide. Or, vous avez bien compris cela, que finalement, ce traitement, ben, il ferait peut-être partie de votre vie jusqu'au bout, mais
oui,
c'est
fait.
Pas grave.
Peut-être pas jusqu'au bout, parce que mon papa, à la fin de sa vie, il n'avait plus de traitement.
Ah, il n'avait plus de traitement, d'accord.
Non.
Et pourquoi, vous savez, ça s'est calmé,
Bah, parce que ça s'est calmé, oui.
D'accord.
Parce que lui, il avait tendance à être violent.
Oui.
Avec maman.
Oui.
Pas violente.
Non. Bah, non.
Je peux avoir une diarrhée verbale, beaucoup parler, mais.
D'accord.
Et tout.
Mais aujourd'hui, lorsque vous dites que c'est stabilisé, vous n'avez plus ces moments. Vous ne vous sentez plus même un petit peu up ou un petit peu down. C'est assez
non,
équilibré.
Je suis stabilisé à 5. On va dire sur une échelle de 1 à 10.
D'accord. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que vous n'avez plus d'hospitalisation depuis 2020, quand même.
Depuis 2020, oui.
Hein? Et que, donc, plus de contention, plus de crise, parce que ça a été très dur pour vous, hein.
Oui, oui. Oui, j'ai vécu la contention, j'ai vécu la chambre d'isolement.
Oui.
Parce que le médecin voulait me mettre en place un nouveau traitement, et il m'a mis sous contrainte aussi.
D'accord.
Donc j'avais pas le droit de sortir comme je voulais, j'avais pas de permission comme les autres.
Je me réjouis vraiment pour vous, ma chère Dominique. Merci de nous avoir donné des nouvelles. C'est important de voir que bien il y a 3 ans quand nous nous sommes parlé, c'était très difficile et puis que vous avez aussi été très courageuse hein, parce que vous avez affronté hein, tout ça. Donc bravo pour ça. Et puis. On vous embrasse bien fort et merci de nous avoir donné des nouvelles.
Oui, je voulais juste dire que Faustine Bollard, sur la France 2,
oui.
fait une émission tous les après-midi sur la bipolarité, sur les tentatives de suicide, sur la dépression et c'est très intéressant.
D'accord. Tous les
dans
après-midi.
Dans le cadre de la semaine de la bipolarité,
ah oui,
de la
d'accord.
santé mentale.
Dans le cadre de la semaine, donc sur France 2, tous les après-midi, Faustine aborde la
à
santé
14h.
Mentale cette semaine. D'accord.
Mm-hmm.
Très bien, mais merci beaucoup pour cette information. Et puis,
oui.
on vous embrasse bien fort, Dominique.
Et puis, il y avait Vital qui m'avait contacté après. Je suis toujours en relation avec lui.
D'accord. Bah, c'est très bien, ça. Vous allez, vous allez faire avancer la cause.
Mm-hmm.
D'accord ?
Oui.
Bonne nuit, et puis on vous embrasse fort. Au revoir, Dominique.
Merci, au revoir.
Angus et Julia Stone, Big Jet Plane. Il est minuit 24 sur Europe 1 et nous accueillons Hamid maintenant. Bonsoir Hamid.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Hamid et quel âge avez-vous ?
J'ai 50 ans et j'appelle de la région parisienne, Olivier.
D'accord, très bien. De quoi voulez-vous me parler, Hamid ?
Je voulais vous dire avant, je vous écoute depuis des années, c'est toujours un plaisir.
Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup, Hamid.
Je voulais rencontrer une femme, Olivier, comme je suis célibataire depuis 2 ans.
D'accord.
Voilà, et je voulais passer par la radio d'Europe 1.
Bah,
voilà.
C'est une très bonne idée.
Voilà. Je sais que ça se passe des fois.
De temps en temps, c'est vrai.
Oui.
Oui.
Voilà.
Et vous avez raison, Hamid. Vous êtes célibataire depuis 2 ans.
Oui.
Vous vous êtes séparé il y a 2 ans?
Bah, j'étais avec une femme.
Oui.
Et elle a déménagé en Bretagne pour s'occuper de ses parents qui sont tombés malades.
D'accord. Donc vous avez été obligé de rester là.
Voilà. Je reste en région parisienne. Et on s'est quitté comme ça, en bon terme.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Alors, quel profil cherchez-vous, Hamid ?
Bah moi, je suis pas difficile. Je recherche une femme qui est sincère et fidèle. Voilà.
Oui. Mais bon,
voilà.
Avec quelques centres d'intérêt, je suppose. Qu'est-ce que vous
Comment
aimez,
ça,
vous, Hamid ?
Olivier ?
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, vous, Hamid ?
Bah, j'aime bien aller au restaurant, aller au cinéma,
oui.
Boire un verre. Aller à faire de la piscine.
Oui.
Voilà.
D'accord. Et
sortir.
Vous habitez où ?
À côté de Port d'Italie. Je sais pas si vous connaissez Olivier.
Ah, bah si, je connais. Bah, bien sûr, je suis parisien.
Voilà.
Donc,
voilà.
Je suis parisien depuis beaucoup.
À la limite de Port d'Italie. Voilà.
D'accord. Et donc, parlez-moi de votre vie un petit peu, parce que vous voyez. Bah,
ça fait 10 ans que je travaille dans une société d'informatique.
Mm-hmm.
Je suis employé de bureau.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire, Olivier ?
Ben, je sais pas. Non, mais vous travaillez, donc vous
ça
habitez.
Ça fait 10 ans que je travaille, Olivier.
Ouais. Et vous êtes donc calé en informatique ?
Ben, je fais de la saisie, Olivier.
Ah, vous faites de la saisie. D'accord.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Et, donc, c'est vrai que d'être tout seul, c'est pas drôle d'être tout seul.
Ouais, la solitude, ça va un moment, Olivier.
Ouais, oui. Et voilà. Donc, dans le cadre du travail, vous ne croisez pas beaucoup de.
Il y a que 4 femmes et 6 hommes.
D'accord.
Et les 4 femmes sont en couple, Olivier.
D'accord. Et donc, vous aimeriez, vous aussi. Mais est-ce que vous, parce que comme vous êtes en région parisienne, enfin même
oui.
À Paris même, est-ce que vous essayez de fréquenter des...
Bah, j'ai essayé, mais c'est juste une amitié, ça va pas plus loin.
Ça va pas plus loin.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Et vous n'êtes pas adepte des sites de rencontres non plus.
Non, c'est pas mon truc, Olivier.
Ouais.
Mm-hmm. J'ai jamais essayé. Voilà.
D'accord.
Et à ce qui paraît, on sait pas sur quoi on tombe.
Non, voilà. Mais comme je le disais l'autre jour à un homme qui, comme vous...
Je me rappelle.
Bon, vous avez entendu.
Oui.
À partir du moment... alors, je vous dis ça parce que je vais vous répéter ce que je lui ai dit à lui. Quand on annonce la couleur de manière claire sur ces sites de rencontres, c'est-à-dire que on cherche une relation sérieuse, hein, que on ne cherche pas une relation d'un soir...
Oui.
Vous voyez que vous.
Mais ça m'intéresse pas, Olivier.
Non, vous ne voulez pas aller là-dessus. Non.
Non, je préfère passer par la radio, c'est mieux.
D'accord.
C'est simple.
Bah, écoutez,
voilà, Olivier.
Vous êtes sérieux dans la vie, en tout cas. Vous êtes fidèle.
Oui, sérieux, fidèle. Je suis gentil, généreux et fidèle.
D'accord.
Voilà.
Bah, écoutez.
Voilà, Olivier.
Moi, ce que je vous propose, Hamid, c'est que si on nous appelle. Florian ou Julia vous mettront en contact avec les dames qui éventuellement veulent vous rencontrer
Olivier.
D'accord. Et puis
c'est gentil de votre part.
Bah, je vous en prie, et puis j'espère que vous allez trouver
Je vous rappellerai, Olivier, si je trouve.
D'accord. Ah avec grand plaisir.
Je vous rappellerai.
C'est tout ce que je
Merci,
vous souhaite
Olivier,
en tout cas,
gentil de votre part.
Je vous embrasse, au revoir Hamid.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Minuit 28 et nous accueillons Marie maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Marie.
Bonsoir Monsieur Delacroix.
Bonsoir.
Oui, je suis Marie.
Oui.
Je vais avoir 74 ans le mois prochain.
Oui.
Alors je voudrais commencer mon histoire du début.
Mm-hmm.
J'ai de la DAS là.
Oui.
J'ai toujours mal au cœur de cela, qui me travaille, qui continue. Ça fait longtemps, mais ça me fait encore du chagrin. Bon, je vais commencer. Alors, c'est une collègue de travail, parce que moi j'ai travaillé aussi à TADAS, hein, de 70 à 98. Et puis, ma collègue de travail, il a donné un bébé de 3 mois. Et arrivée à 16 mois, elle a fait la communion de sa fille. Et elle m'appelle, elle dit, Marie, le vendredi, elle m'appelle, elle dit, Marie, tu peux me garder Kevin, parce qu'il s'appelait Kevin. Elle dit, non, je dis, moi, je suis préparée pour, on va faire un pique-nique avec les enfants, les miens, et puis que je garde. Je dis, t'aurais dû me prévenir au moins un mois avant. Et puis, elle m'a dit, tant pis, elle dit, je vais m'arranger que mon fils, il va le surveiller, il a 11 ans, il le surveille de la fenêtre, puis c'est tout, bon. Ils font la communion, la fête, tout ça. Et puis, le petit, pendant ce temps-là, il courait, bien sûr. Mais moi, j'avais prévenu déjà la DAS. Oui, je mets la surdité dans les bulles. Oui, j'avais prévenu la DAS, comme quoi il y avait une mare. Ah, oh, ben, dis-là que 3 mois. Je dis, oui, mais quand il va arriver à 2 ans ou 1 an, c'est dangereux. Oh, madame Bernard, mais non, vous inquiétez pas pour ça. Oui, mais arrive à 16 mois, alors la communion se prépare, se fait, tout ça. Et elle me téléphone à 10h30 le soir, bien sûr, pour me dire, Kevin, il est mort. Tu me dis, Michel? Je dis, mort de quoi? Elle dit, j'ai tombé dans le mare.
Mais non.
Ah, si. Alors, j'ai hurlé, puis mon mari aussi, il m'a soutenu. Hein. J'ai dit, c'est impossible, je l'avais averti. Il n'a pas dormi de la nuit, bien sûr. Hein. Alors, le jour de l'enterrement, parce que c'était des parents où ils avaient enlevé le petit, parce que c'était des parents qui étaient retardés mentalement,
oui.
Et puis ils étaient en prison. Alors, le jour de l'enterrement,
oui.
C'est pas de leur faute, ces parents. Alors, le jour de l'enterrement, les parents étaient là avec les menottes, tout, et puis elle a pleuré même pas. Non, il n'y avait pas de chagrin. C'est plutôt moi. Alors moi, j'aurais voulu m'approcher vers les parents, mais je pouvais pas parce que TADAS leur dire leurs droits. Alors, elle a pas été punie, rien du tout, parce que c'était des gens qui savaient pas leurs droits. Alors, rien du tout. Et on continue d'y en donner. Je l'ai vue l'autre jour, elle est venue parce que moi j'habite maintenant en HLM parce que j'ai perdu mon mari il y a 3 ans.
Oui.
Alors, je suis revenue là. Et puis la DAS, elle est en dessous chez nous. Puis je l'ai rencontrée, tout pimpante, tout. Et elle a 65 ans, on lui en donne toujours. Elle a même gardé mon petit cousin, parce que ma cousine, elle était secrétaire à la mairie. Et puis vous savez ce qu'elle faisait? Quand elle ne voulait pas le garder, le petit Kevin, elle me le donnait.
Oui.
Elle me donnait mon petit cousin aussi. Et puis c'était de la purée à la flotte, tout. Et puis elle me dit un jour, elle me dit, moi j'avais des petits arabes, elle me dit, tu leur donnes du porc? Ah, je dis non, je respecte. Ah, hein. Oh, ben, ils ne verront pas leur âge. Ah, je dis même, moi je respecte. Je veux qu'on respecte ma région.
Vous avez raison.
Je veux qu'on respecte. Voilà. Et puis tout des tours comme ça. Et puis elle continue d'en avoir. Voilà. Elle a gardé les neveux à, comment ça s'appelle, à Montgendre, qui sont été retirés.
Les neveux donc de votre gendre ont été retirés aussi.
Oui, 4. Alors on en a eu un, tout ça, et puis d'autres qui sont. Et on les sépare toujours maintenant. Hein.
Mm-hmm.
On les sépare toujours, hein. Ça continue, hein. Et puis ils font vraiment des gaffes, hein, la DAS, de toute façon. Hein. Je suis bien placé pour le savoir, hein. Je sais, hein. Parce que j'ai affaire moi, à l'assistance sociale quand j'ai perdu mon mari. Hein, il fallait de l'aide, comment ça s'appelle, pour les droits. Vous savez,
vous êtes une ancienne employée de la DAS,
oui.
En plus, on vous a confié des enfants avant.
Oui, j'en avais 4, moi. Les miens, puis les enfants de la DAS.
D'accord.
70 à 98. J'ai fait ça avant elle.
D'accord.
Peut-être une jalousie, puis elle me disait tout le temps, ah, ton mari gagne plus que le mien, je voudrais de l'aide. Ah, moi, je l'ai aidé. Puis en cachette, j'ai appris que son mari était à la centrale, dans les bureaux, puis il avait un bon salaire. Ah, maintenant, c'est la grande vie, c'est la grande maison, les chevaux, tout ça, voilà. Voilà. Et la DAS, elle n'a pas été punie. Ça aurait été moi, ah ben j'aurais fait de la prison.
Pourquoi? Vous êtes sûr, vous auriez fait de la prison pour ça? Oui, bah oui, parce que...
Oh oui, parce que je n'ai pas la même, comment ça s'appelle, même catégorie. Hein.
C'est-à-dire?
Pas la même, question d'argent, question de... je veux dire, de métier. Hein. Mon mari était cadre et puis elle était dans les bureaux de la centrale. Et on n'a pas les mêmes, on n'avait pas le même du tout. C'est madame. Elle,
train
c'est
de
madame.
Vie. D'accord.
Voilà, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Mmh. Voilà. Qu'à chaque fois qu'elle allait quelque part, elle me donnait mon petit cousin et puis le petit Kevin. Parce qu'elle dit, oh, je peux pas te garder, je vais aller aux commissions, tu peux me le garder. Alors quand j'ai dit ça à ma cousine, elle dit, bah, elle gonflait. Elle dit, ah, pour être payée, moi je la paye pour le garder, pour l'emmener avec elle. Ah non, elle ne payait pas. Mais je voulais pas te payer, hein, d'accord. Elle me l'avait proposé, j'aurais pas voulu, hein. Mais c'est pour dire que, voilà. Des trucs comme ça, tu peux voir sans arrêt, sans arrêt. Ah non, non, sans arrêt.
C'est fou, ça. C'est fou, quand même.
Ah oui, ah oui, moi, ça m'a fait de la peine. Et j'ai toujours ça, c'est de cœur. Je me dis, elle reste à ce là, je le vois toujours, hein. Je le vois toujours, hein. Et à l'enterrement, voilà. Les parents, ils ont pas pu se défendre. Ils ont pas pu se défendre parce qu'ils connaissaient pas leurs droits. Quand on connaît pas nos droits, ben voilà.
Ben oui, mais quand même, la justice n'a pas été saisie pour,
parce
que cet enfant, il avait quel âge, cet enfant?
16 mois.
16 mois, et il s'est noyé, le pauvre, et oui, voilà. Ils n'ont pas du tout été embêtés?
Non, pas du tout, je le promets. J'ai toujours le journal, j'ai regardé le journal en souvenir, parce que je vais voir ça mes amis des fois quand ils viennent. Oui. Alors maintenant, elle a bouché la mare, bien sûr, après, hein. Et puis elle a mis une grande croix. Elle croit ni Dieu, ni diable, comme on dit. Et bien, plus faire la communion.
Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur, cette dame.
Ah ben maintenant, non.
Ouais.
Ah non.
Vous vous parlez plus, non, maintenant?
Comment?
Vous vous parlez plus, maintenant?
Ah si, quand elle vient, quand je descends courrier, par exemple, parce que moi, je suis handicapée, mais je me tiens quand même, j'ai une béquille. Alors, je l'ai vu l'audio. Ben, elle dit, tu m'as pas reconnue? Ah ben, je dis, non, du coup, je t'ai pas reconnue, Michel. Excuse-moi, et puis... Ben, ça. Elle dit, je vais avoir l'assistante sociale, parce que j'ai encore des enfants là, à m'occuper, tout ça... Non, mais elle était bien avec les éducateurs, moi, je pensais.
Oui, mais par enfant, par exemple, cette dame-là, elle touche combien par enfant?
Alors, c'est 4, à l'époque, c'était en francs, hein, alors maintenant en euros, je vois plus. C'était 1000, 2000, entre 3000 et 4000. Hein.
Entre 3000 et 4000 par enfant?
Ah oui, 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 oui. Elle en a 4 des fois, elle en a 5. Hein.
Mais vous êtes sûr que c'est 3000 ou 4000 francs, vous dites francs?
Oui, oui, oui. Ah oui, en francs.
Ah oui, d'accord. À l'époque, donc à l'époque, ça faisait donc ça par 4.
Voilà, voilà.
Bah oui, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup.
Ah oui, oui, oui. Ah ben vous verrez la maison qu'elle a, hein, dis donc. C'est vraiment. Pourtant, c'est un petit village, je ne sais pas si vous connaissez Neuvy-sur-Loire.
Non.
Non. Non,
c'est où? C'est où? Vous me dites?
C'est dans la Nièvre.
D'accord.
C'est ma famille là-haut aussi. Et puis, c'est madame, les grandes voitures. Et puis, elle avait vendu une voiture à mon mari. Puis mon fils, comme il est mécanicien dans les trains, tout, il dit, papa, fais-toi pas rouler. Alors mon mari se laissait faire, puis il a acheté la voiture. Et puis, elle avait bloqué le compteur pour la voiture qu'elle nous a vendue.
Et donc, du coup, avec tout ça, vous lui parlez quand même encore?
Ah ben oui, parce que je suis pas méchante, moi. Hein.
Non, vous êtes pas méchante, mais enfin, elle a essayé quand même de vous arnaquer sur la voiture, quand même.
Ah ben oui, elle l'a fait, là. Ben, c'est du passé, c'est du passé. Hein.
Oui. Moi, bon, toujours, si vous lui en tenez pas rigueur, c'est bien. Vous n'êtes pas rancunier, vous, donc, Marie?
Non. Non, du tout avec personne. Hein.
D'accord.
Je suis aimée ici, même par les signes.
D'accord.
J'aide les gens quand je peux.
D'accord. Donc, vous gardez encore de temps en temps des enfants quand on vous en confie, ou?
Ah non, maintenant, non, déjà arrêté en 98.
Ah oui, donc ça fait un moment.
Mais normalement, en 98, j'étais mutée à Paris. C'est toujours mon certificat.
D'accord.
Et oui, j'étais mutée à Paris. Avec mon mari, on s'est décidé, on a dit non, c'est pas une vie de famille, il faut mais au moins gagner de l'argent, tout ça. Mm-hmm. J'ai fait du bénévole, et puis genre, quand je rencontre un enfant, je l'envoie aux assistants sociales.
Parce que, dites quand même, je vois qu'elle a des petits Marocains et des petits Hindous. Et elle leur donne quand même à manger, comme vous disiez tout à l'heure, du porc.
Oui, oui. Ah oui, je vous promets. Hein. Quand elle m'a téléphoné, elle dit, tu leur donnes du porc. Ah, je
dis, c'était maintenant. Il y a combien de temps, ça?
Bah, maintenant, ça va date vingtaine d'années. Hein.
D'accord. Oui, donc... Mais elle a encore des enfants, encore aujourd'hui, donc?
Ah oui, elle en a encore. Oui, oui. Oui, oui.
Bon.
Puis le neveu à mon gendre, bon, il a 18 ans, à peine, eh bien, il vit chez elle, de toute façon. Hein. Il ne veut pas laisser sa mère.
D'accord. Donc, elle est famille d'accueil, en fait, cette dame.
Oui, oui, comme moi. Oui,
ben, comme vous, d'accord.
Même j'étais plus au calme parce que je fais éducatrice, moi, avant.
D'accord, ah, d'accord. Ah, vous étiez éducatrice à l'ASE, donc.
Oui, voilà. Mais j'ai préféré faire à domicile après parce que à cause des de déplacements, tout ça, ça ne m'intéressait pas.
Mais tous ces enfants, là, en fait, parce que vous avez l'air d'en connaître pas mal, il y a des soucis là-bas dans le coin que tous les enfants sont placés comme ça?
Oui, 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 il y a bien des problèmes. Là, j'ai rencontré une petite dame sur mon palier, là, que mon voisin qui connaît, sa famille, a pleuré, l'audio a pleuré, a dit, on m'a enlevé mes trois enfants. Je dis, pourquoi t'as enlevé tes trois enfants? Eh ben, elle dit, je sais pas pourquoi. Enfin, j'essaie de la revoir, puis j'essaie de demander pourquoi.
Oui, oui.
Alors, le petit voisin m'a dit, c'était un petit peu de négligence, mais ils ont été, parce qu'ils les ont séparés. On ne sépare plus où, hein, maintenant.
Oui, donc, oui, mais c'est dommage, ça, d'ailleurs.
Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce métier-là, moi. Parce que moi, à 17 ans, ma mère, j'ai eu un petit frère. Mm-hmm. Alors, je me suis bien occupée, puis j'aimais ça. Et puis mon mari, c'était de la DAS. Puis quand j'ai moi raconté son histoire, je me suis dit, ah, ça me fait mal au cœur. Parce que tu sais, je voulais faire ça, mais ma mère ne voulait pas. Normalement, je devais être psychologue. J'ai mes livres, j'ai tout ça encore. Mm-hmm. Puis ma mère, elle n'a pas voulu à l'époque. Vous savez, quand on n'a pas 21 ans, on ne fait pas ce qu'on veut. Ça, je voulais faire ça, psychologue.
D'accord, vous êtes allé jusqu'au bac et tout, et vous vouliez faire psychologue après.
Voilà, oui, oui, j'aurais voulu, oui, oui. À cause de ma mère, elle m'a dit non, elle m'a fait sortir de l'école, alors...
Ah bon, elle vous a fait sortir de l'école avant le bac?
Ah oui, avant le bac. À la quatrième.
Oh, à la quatrième?
À la quatrième. Elle m'a dit, tu iras travailler comme les autres. Elle m'a dit, de toute façon, c'est les psychologues, c'est des fous.
Oui, d'accord.
Okay. On en a besoin. Enfin,
moi, ah bah oui, besoin, complètement. Mais bon, ça doit être un regret dans votre vie, ça.
Ah oui, ça fait mal. Hein. Oui. Donc, mon fils, il me disait, maman, c'est drôle, hein, t'aurais pu faire un psychologue, il me disait tout le temps, ben oui, c'est bien, tu vois, mes livres, tout ça.
En tout cas, vous restez alerte, hein, si vous voyez des choses qui ne tournent pas rond, faut signaler, hein.
Oh, ben, attendez, quand je vais à l'assistance sociale, parce que comme elle vient là pour ses papiers, tout ça, quand je vais la voir, je l'appelle, et l'assistance sociale.
D'accord.
Je vais dire, madame, c'est madame Balance, hein. Je dis, vous donnez toujours des enfants, avec ce qu'il y a eu? C'est une nouvelle, hein, je dirais, c'est une nouvelle, l'autre, oui, prête, hein, oui. Maintenant. Mais je vais quand même mettre les points sur les yeux. Non. Ça me travaille toujours, et je vois toujours l'enterrement. Hein. Je vois toujours l'enterrement.
Oui,
tout le monde est
nanté
ou très.
Ça vous a choqué?
Ah, ça m'a choqué. Ouais. Ah oui, ma tante aussi, ma cousine, tout le monde, ça a choqué tout le monde. Hein.
Je comprends.
Pas compris.
Je comprends.
La belle voiture, ça c'est sûr, les espaces, les... vous voyez bien.
Bah écoutez, vous avez bien fait de nous mettre au courant de tout ça, et puis gardez l'œil ouvert, Marie.
Oui. Oh, hein? Là, c'est pas peur.
Bon, on vous embrasse bien fort, ma chère Marie. Merci d'avoir appelé.
Mon petit voisin aussi, il était abandonné aussi, mon petit voisin.
Ah oui, oh là là, bah dis donc, il s'en passe là-bas, hein.
Ah bah oui, il a 51 ans maintenant, mais il est adopté par une famille, comment ça s'appelle, française. Ils ont changé tout son nom.
D'accord.
D'accord.
Ah oui, donc, bon. Ouais, vous connaissez bien le problème, donc.
Oui. Oh là là, oui. Je dis beaucoup, moi. Puis je regarde beaucoup les émissions là-dessus.
D'accord.
Je vous regarde, hein.
Non.
Je vous regarde la télé.
Ah, bah, très bien. Bon, bah, en tout cas.
Ma famille, elle est d'Évreux, hein.
Ah, votre famille est d'Évreux.
Oui, j'ai le fils de ma cousine. Il est maire à côté d'un petit village d'Évreux, Supplicio.
Comment il s'appelle, le bled?
Ah, je m'en rappelle plus, c'est juste à côté, hein.
D'accord.
C'est un petit village, ils sont pas beaucoup, hein.
D'accord.
C'est vrai, c'est pas grand. C'est juste à côté, il s'appelle Supplicio.
D'accord. Bah, écoutez, je croiserai monsieur Supplicio, monsieur le maire. D'accord.
Il a 51 ans, oui.
Très bien.
C'est juste à côté d'Évreux.
Très bien. Bon, bah, écoutez, grande famille et belle famille. On vous embrasse, Marie.
Merci.
Au revoir.
Une bonne émission.
Merci.
Des bons conseils, tout. Je vous remercie beaucoup.
Merci, Marie. Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1.
Nous accueillons Manu maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Manu.
Bonsoir, Olivier. Bonne année, bonne santé.
Bonne année, bonne santé, Manu. Comment ça va?
Ça va et vous?
Bah écoutez, ça va. On essaye de faire aller, hein.
Ouais.
Bon, et vous alors? Parce que c'est pas la première fois qu'on se parle, Manu.
3-4 fois.
On vous connaît. Vous étiez vraiment vous êtes accro à la chirurgie esthétique.
C'est ça, oui.
Mais alors, les dernières fois qu'on s'était vus, rappelez-moi ce que vous aviez fait la dernière fois.
39 opérations.
Combien ?
39.
39 opérations.
C'est ça.
Qui a changé complètement votre physique, hein.
C'est ça, bien sûr, oui.
Voilà. Et visiblement, aujourd'hui, vous m'appelez parce que de récents événements vous ont fait changer d'avis sur la chirurgie esthétique.
C'est ça. Donc là, je suis passé le 9 janvier sur l'émission sur C8.
Oui.
Il y a pris la vérité qui compte.
Oui.
Voilà. Donc là, ça a fait un peu réfléchir et comme quoi je vais arrêter la chirurgie parce que...
Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de cette émission? Racontez-moi.
Comment vous expliquer? Donc en fait, j'ai réfléchi. En fait, je trouve que j'ai trop fait de chirurgie esthétique.
Mais avec cette émission, il y a quelqu'un qui veut vous parler normalement. Il y a que la vérité qui compte, non?
Y
a
non.
Non?
D'accord. C'est moi qui ai invité ma maman.
D'accord, c'est votre maman qui était là.
Oui, c'est ça.
Et donc, elle voulait, quoi, évoquer son inquiétude que vous fassiez
non.
ça?
Non. En fait, c'est moi qui l'ai invité sur le plateau.
D'accord, c'est vous qui l'avez invité pour lui annoncer que vous alliez arrêter?
Que non, je lui ai annoncé comme quoi je voulais caresser comme je suis.
Oui.
Et après, que j'avais fait qu'une chirurgie à faire, c'était les cheveux.
Mais là, en fait, elle vous accepte comme vous êtes depuis le début, votre maman Manu, non?
Oui, oui et non.
Ça veut dire quoi ça, oui et non? Alors dites-moi.
Mais des fois oui, des fois non. Elle a bien quand j'étais le petit garçon d'avant.
D'accord. Et voilà. le nouveau physique que vous avez ne lui plaît pas à votre maman ou elle préférait avant?
Ça la choque.
Oui, ça la choque.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, vous lui avez fait la promesse d'arrêter?
J'ai fait la promesse de faire juste les cheveux en Turquie, et oui. Après j'arrêterai la chirurgie esthétique.
D'accord, donc il n'y a plus que les cheveux à faire, et après c'est terminé.
C'est fini. Et j'arrête la chirurgie.
Vous êtes sûr de ça, Manu? Parce que vous en avez fait des opérations, hein, il y a...
Ah oui.
Ah oui?
Oui. Et... Alors j'arrêterai toutes les chirurgies.
Vous arrêtez toutes les chirurgies. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes tout de même satisfait de l'état physique dans lequel vous êtes aujourd'hui?
Oui. Après j'ai beaucoup de critiques. Mais après.
De critiques par qui? Par qui vous avez des critiques?
Par l'agent.
L'agent, c'est qui l'agent?
Non. Par les personnes sur les réseaux sociaux.
Ah, d'accord, oui, ok. D'accord, voilà. Bon, mais ça, vous savez, les réseaux sociaux, vous avez commencé.
J'avais fait l'émission sur C8, il y a le 9 janvier,
oui.
Sur C8.
Oui.
Et j'ai eu beaucoup de critiques.
Ouais, mais vous savez, les gens sont méchants, hein, de toute façon, ça vous le savez.
Oui.
Hein?
Ah oui.
Les gens, ils sont méchants, ils critiquent tout, surtout sur les réseaux sociaux. À partir du moment où on prend du temps pour aller écrire sur les réseaux sociaux, déjà, ça dénote qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre, hein?
C'est ça. Oui.
Donc, là, le problème, c'est que ce qui s'est passé, hein, c'est que vous vous êtes quand même exposé, en plus, hein, Manu. On vous a beaucoup vu, quand même. Donc, et puis on vous a beaucoup entendu. Vous avez fait quand même pas mal d'émissions, donc du coup, moi je trouve que c'est une bonne décision, parce que je vous ai vu en photo, sincèrement, là ça va, vous êtes bien là.
Ah oui, j'étais beau garçon avant, c'est vrai.
Vous préfériez avant?
Franchement, oui.
D'accord. Donc du coup, vous regrettez d'en avoir fait autant? Ils critiquent tous.
Je pense que oui, mais bon.
D'accord.
Maintenant, c'est trop tard.
Bon, maintenant, c'est trop tard. Alors, cette promesse, c'est très bien. Il faut la tenir. Maintenant, vous nous promettez que c'est fini.
Promis une parole.
Promis. Bah, écoutez.
Oui.
C'est parfait. Je suis très content pour vous. On vous embrasse bien fort, mon cher Manu.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir. I'm
Ski Valley sur Europe 1 avec la bande originale du film Grease. Nous sommes déjà jeudi, alors j'ai un petit rectificatif à faire et merci pour la personne qui m'apporte cette précision suite au témoignage tout à l'heure de Dominique. La paroxétine est un antidépresseur, pas un thymorégulateur. Donc attention, bien évidemment, je ne me rappelle plus très bien si nous avions donné plutôt cette direction-là, mais en tout cas, ça n'est pas voilà, c'est Dominique en parlait dans le cadre de sa bipolarité. Et puis il y a David qui nous donne cette info que le chanteur de Boney M est décédé en 2010, le chanteur danseur hein, de Boney M. Et que ça n'est plus le même aujourd'hui que vous voyez. Merci David pour votre précision. Voilà, il est décédé le 30 décembre 2010 à 80 ans à Saint-Pétersbourg, sûrement d'une overdose. Donc voilà, c'est un fan de Boney M qui nous écrit aussi ce deuxième SMS. Nous accueillons maintenant Sylviane pour finir cette émission. Bonsoir Sylviane.
Bonsoir.
Bonsoir. Sylviane, d'où m'appelez-vous et quel âge avez-vous ?
Alors, je vous appelle de Saône-et-Loire.
Oui.
Et j'ai 71 ans.
Voilà. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Sylviane ?
Alors, j'ai réagi très fortement. J'ai essayé de ne pas pleurer. À ce que les députés débattaient à propos des soins palliatifs et de refus d'autoriser le suicide assisté. Voilà. Parce que moi, mon père, j'y suis allée avec lui aux soins palliatifs.
Oui.
Et ça a été une horreur. Je m'en remets pas, d'ailleurs. C'était... Ça fait 4 ans, mais je suis pas arrivée à surmonter ça. Tous les jours, il me disait, tue-moi.
Il souffrait de quoi, votre papa ? Il souffrait de quoi, votre papa ?
Il avait un cancer du pancréas, mais bon, le médecin généraliste m'a dit qu'il aurait pu vivre encore 1 ou 2 ans, quoi. Il n'avait pas de douleur particulière.
D'accord.
Voilà. Donc, moi, je m'en veux beaucoup.
Pourquoi
de ne pas savoir chercher, de ne pas lui trouver une solution en Suisse ou en Belgique.
Vous savez, Sylviane, c'est compliqué de trouver une solution dans ces cas-là quand on ne connaît pas, hein. Alors, les députés devaient voter cette loi, vous le savez, au mois de juin dernier, et avec la dissolution de l'Assemblée par le président Macron, cette loi a été reportée. Elle devrait être à nouveau, bien évidemment, mise au vote bientôt. Hein, je ne peux pas vous dire quand parce que je n'ai pas l'info exacte. Mais il est certain, Sylviane, vous avez raison d'évoquer ce sujet-là ce soir. Nous sommes complètement en retard sur cette histoire, cette histoire de soins palliatifs et de mort assistée. C'est un vaste débat, hein. Bien évidemment, vous le savez, avec l'Église au milieu, hein, qui donne son avis, hein, et qui pèse sur le débat en France, mais ça a dû être très dur pour vous, bien évidemment, très dur.
Ah oui, ça a été très dur, parce que j'ai vu mon père souffrir de martyr, hein. Il avait, je sais pas pourquoi, il avait pris, comment on appelle ça, une allergie dans la gorge, donc oui. Il pouvait plus articuler que des voyelles, c'est tout. Mmh. Il avait toute sa tête, hein, toute sa tête. Et chaque jour, il me demandait, eh ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tu vois. Voilà. Alors, bêtement, moi, je lui répondais, papa, je vais pas aller en prison. Ce qui était complètement idiot, quoi. Franchement.
D'autant plus que vous savez, il y a des établissements où ça se pratique, hein, où des médecins accompagnent vraiment les patients de manière à ce qu'il ne souffre pas. Mais
bah, ça n'a pas été le cas. Hein.
Non, il y a malheureusement encore beaucoup de médecin et je ne vais pas en, voilà encore donner mon avis et mon expérience là-dessus parce qu'on va dire que je parle toujours de mon expérience, mais des proches ont vécu dernièrement une expérience comme la vôtre, Sylviane. Leur,
mais comment ils ont fait ?
Leur frère avait un cancer des poumons très grave et il est malheureusement tombé un week-end où l'équipe soignante de la semaine n'était pas là et où il y avait un médecin qui faisait des vacations, donc qui n'était pas un médecin qui était là embauché par cet hôpital, hein, dont je tairai le nom, parce que c'est un excellent hôpital en plus. Mais ce médecin a refusé de sédater ce jeune homme qui est décédé dans des conditions terribles devant ses proches. Comment peut-on, médecin en plus, refuser cela à quelqu'un qui est dans la souffrance, parce que c'est de souffrance extrême dont on parle là.
Alors, je pense que mon père, à part ce qu'il avait dans la gorge et dans la trachée, bon, je ne sais pas, c'était, je me souviens plus ce que c'était, mais il voulait plus vivre, donc il a été obligé de s'arrêter de boire et de manger. Et quand je l'ai retrouvé, quand il venait de décéder, j'ai appelé juste au moment où, d'après les infirmières, il était mort. Ben vous savez, il pesait quoi, 35 kilos?
Oui. Tout.
Voilà. Donc, il avait choisi sa mort. Donc, pourquoi est-ce que des députés, hein, aussi incompétents qu'ils sont la plupart du temps, pourquoi ils décident du sort des gens? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais plus laquelle, là, dans la foison de nos... que le député incompétent a dit que soigner, c'était pas faire mourir, enfin un truc comme ça, je me souviens même plus, quoi. Voilà. Moi, je leur souhaite vraiment, hein, vraiment de passer par là, parce que quand on a un proche, comme vous le dites, pour le vôtre, qui souffre, hein, eh bien, le moins qu'on puisse faire, c'est d'alléger ses souffrances, voilà.
Complètement.
Pourquoi les soins palliatifs, ils ne font pas ça?
Mais vous savez, je vous remercie de votre témoignage ce soir, qui est une goutte, hein, dans l'océan, mais qui est un témoignage de plus pour faire comprendre que nous ne pouvons plus en rester à cette même position-là, Sylviane. Ah, donc, je vous remercie mille fois d'avoir eu le courage de nous appeler, parce que je sens que c'est très douloureux pour vous. Mais les choses vont avancer, Sylviane. Les choses vont, elles vont avancer.
Moi, j'espère.
Je vous embrasse bien fort, en tout cas.
Hein. Merci de m'avoir.
Je vous en prie. Bonsoir, Sylviane.
Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. C'était un moment.